Chapitre 11. 30 janvier 2209. J'avais oublié les sensations que procure l'adrénaline. Depuis 30 heures, notre vie calme et paisible a subi un bouleversement complet. Tout a débuté par deux songes. Hier matin, j'ai rêvé de Richard. Il n'était pas de retour à nos côtés, mais je voyais son visage dans l'angle supérieur gauche du grand écran de l'ordinateur raméen alors que nous vaquions à nos occupations. Il répétait inlassablement mon nom, et je continuais d'entendre ses appels même après m'être réveillé en sursaut. J'en parlais à Michael quand Cathy apparut sur le seuil de notre chambre en pyjama. Elle tremblait, terrifiée.
« Que t'arrive-t-il, ma chérie ? »
demandai-je en lui tendant les bras. Elle s'y précipita pour m'étreindre avec force.
« C'est papa ! J'ai rêvé qu'il m'appelait !»
Un frisson glacé suivit ma colonne vertébrale et Michael s'assit. Je réconfortais Cathy, troublée par la coïncidence. N'avait-elle pas entendu les propos que je venais de tenir ? Impossible. Nous l'avions vue approcher dans le couloir. Quand elle regagna sa chambre pour s'habiller, je déclarai à Michael que je ne pouvais ignorer ces deux songes. Nous avions parfois parlé de mes dons psychiques, et si la perception extrasensorielle le laissait sceptique, il reconnut qu'il eût été impossible d'affirmer que nos rêves n'étaient pas prémonitoires.
« Je dois aller à sa recherche. »
Conclus-je. Après avoir pris mon petit déjeuner. Michael s'attendait à cette décision et était prêt à s'occuper des enfants, mais comme il faisait nuit dans Rama, nous décidâmes d'attendre le soir et le lever du jour à l'extérieur. Je fis une longue sieste afin d'emmagasiner de l'énergie et je rêvais qu'un danger me menaçait. Avant de sortir, je m'assurai que mon ordinateur portable contenait des dessins ressemblants de Richard. Je voulais pouvoir désigner ainsi l'objet de ma quête à tout avien qu'il me serait peut-être donné de rencontrer. Après avoir souhaité une bonne nuit aux enfants, j'allai droit vers le nid des créatures ailées. La disparition du char sentinelle ne me surprit pas outre mesure. Des années plus tôt, lorsqu'un de ces êtres m'avait conduite dans son antre, je n'y avais pas vu le Cerbère mécanique. M'avait-on adressé une invitation onirique ? Mon cœur battait follement quand je passais devant la citerne puis m'enfonçais dans le tunnel. Je parcourus près d'un kilomètre sans entendre d'autre bruit que mes pas avant d'atteindre une haute porte située sur la droite. Je me penchai pour regarder au-delà du seuil avec prudence. La salle était plongée dans l'obscurité et j'utilisais ma lampe. La pièce était peu profonde, 15 mètres au plus, mais très haute. Des conteneurs ovoïdes s'empilaient contre la paroi du fond. J'eus au fait de comprendre l'utilité de ce lieu. Chaque caisson avait la forme et les dimensions d'une pastèque manne. J'étais dans la réserve de nourriture des aviens et je comprenais mieux pourquoi ils en avaient interdit l'accès. Après avoir constaté que toutes ces boîtes étaient vides, je repartis vers le puits. Une impulsion m'incita à revenir sur mes pas et je suivis le tunnel au-delà de la réserve. 500 mètres plus loin, le passage débouchait sur une vaste salle circulaire au plafond élevé. Une vingtaine d'alcôves s'ouvraient sur son pourtour et une construction hémisphérique occupait son centre. J'allais inspecter les pièces latérales. La plupart étaient vides, mais je découvris dans l'une d'elles 3 chars sentinelles. Ma frayeur fut sans objet. Tous étaient au repos. L'alcôve la plus intéressante se situait à 180 degrés de l'entrée. Il y avait 5 niches dans chaque paroi et des cavités hémisphériques subdivisées comme des parts de tarte étaient creusées dans les étagères du mur du fond. J'y vis une substance fine et légère qui me fit penser à des cendres ainsi que des anneaux rouges cerises ou or, identiques au collier de notre ami Avien. Je revins vers la porte du dôme central et braquai le faisceau de ma lampe sur le panneau divisé en quatre parties. Je reconnus en haut, à gauche, la gravure d'un Avien et à droite, celle d'une pastèque manne, mais les images du bas me laissèrent perplexe. Il y avait une étrange créature qui courait sur six pattes aux nombreuses articulations, ainsi que la représentation d'une sorte de filet aux mailles très serrées. Après de brèves hésitations, je poussai le battant et sursautai en entendant un signal d'alarme rompre le silence. Je me figeai sur le seuil et restai immobile, même quand le vacarme s'interrompit. Je tendais l'oreille pour découvrir si quelqu'un ou quelque chose réagissait. Rien ne se produisit et je regardai autour de moi. Il y avait au centre de la salle un cube transparent d'environ 2,5 mètres de côté. Après de brèves hésitations, je poussai le battant et sursautai en entendant un signal d'alarme rompre le silence. Les parois, le sol et la voûte du dôme étaient décorés de motifs géométriques et une étroite ouverture aménagée dans le cube permettait d'y pénétrer. Ce que je fis. J'avais l'impression de fouler un tapis de cendres dont la consistance différait de ce que j'avais découvert dans les cavités des niches de l'alcôve. J'éclairai le sol et vis un objet en partie enfoui dans la substance pulvérulente. Je le ramassai, le secouai et manquai m'évanouir en reconnaissant B, le robot préféré de Richard. Le barde était en piteux état avec son corps noirci et son panneau de commande miniature fondu. Je levai le petit personnage à mes lèvres et lui donnai un baiser. Il était calciné. Richard avait-il péri dans les flammes d'un feu allumé à l'intérieur de ce cube? Je tamisai les cendres entre mes doigts sans trouver d'ossement. À présent, certaine que mon mari s'était aventuré dans le nid des Aviens, je consacrai 8 longues heures à gravir et à descendre des corniches, à explorer des tunnels. J'allai dans tous les lieux visités la fois précédente et découvris de nouvelles salles, mais pas la moindre trace de mon époux. Aucun signe de vie, en fait. Consciente que la brève journée raméenne tirait à sa fin et que les enfants s'éveilleraient sous peu, je regagnai finalement mon foyer, épuisé et découragé. À mon arrivée, le couvercle et la grille protectrice étaient ouverts, ce qui me surprit, car j'étais quasi certaine de les avoir refermés derrière moi en partant. Je venais d'entamer la descente quand j'entendis crier mon nom. Je me retournai vers Michael, qui arrivait en courant de l'avenue de l'Est avec Patrick dans ses bras.
« Te voilà enfin !» fit-il à bout de souffle. « Je commençais à m'inquiéter. »
Il s'interrompit, me dévisagea, puis regarda de tous côtés.
« Où est Cathy ?»«
Que veux-tu dire ? »
manquis-je, effrayé par son expression.
« Elle n'est pas avec toi ?»
Je secouai la tête et déclarai que je ne l'avais pas vue. Michael se mit à pleurer et j'allais réconforter Patrick qui, apeuré, imitait son père.
« Oh, Nicole, je suis désolé. Patrick a passé une mauvaise nuit et je l'ai pris dans notre chambre. Puis Benji a eu des coliques et je m'en suis occupé avec Simone. Finalement, nous nous sommes endormis en laissant Cathy seule. À notre réveil, elle avait disparu. »
J'essayai de le rassurer en affirmant qu'elle devait jouer dans le voisinage, et il me rétorqua
« Non, non, elle n'est pas dans les parages. Il y a plus d'une heure que je la cherche. »
Nous descendîmes voir Benji et Simone, qui nous informa que sa sœur avait été profondément déçue d'apprendre que j'étais parti sans elle.
« Elle espérait que tu l'emmènerais avec toi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit hier soir ?» Je ne savais pas que c'était important et qu'elle essaierait de retrouver papa toute seule.
Nous étions épuisés, mais l'un de nous devait repartir et j'étais physiquement la plus apte à rechercher Cathy. Je fis un brin de toilette commandai nos petits déjeuners et résumai ma descente dans le nid des aviens. Simone et Michael examinèrent B sous toutes les coutures. Ils se demandaient eux aussi si Richard n'avait pas connu le même sort que ce petit robot.
Cathy était certaine que papa avait été voir les octopodes,
précisa Simone juste avant mon départ. Et ce fut la gorge serrée par l'appréhension que j'allais jusqu'à la place où se trouvait l'antre de ces monstres. Je n'étais pas arrivé à destination que la nuit tomba.
Formidable,
marmonnai-je.
Voilà qui va faciliter mes recherches.
Le couvercle et les deux grilles protectrices du puits étaient ouverts. Mon cœur rata un battement. Je savais que Cathy était descendue et que j'en ferais autant en dépit de ma peur. Je m'agenouillai et l'appelai à deux reprises. J'entendis ma voix résonner dans les profondeurs, mais aucune réponse. Au moins, n'y avait-il pas eu un gémissement aigu et des bruissements? Je descendis la rampe jusqu'à la vaste caverne d'où partaient quatre tunnels. Ce fut difficile, mais je réunis tout mon courage et entrai dans le passage que Richard et moi avions autrefois suivi. Je ne fis cependant que quelques pas avant de revenir emprunter le boyau adjacent. Ce second couloir, qui conduisait lui aussi au puits hérissé de pointes, traversait la salle que nous avions baptisée le musée. Je n'avais pas oublié la terreur éprouvée 9 ans plus tôt en découvrant le docteur Takagishi empaillé et exhibé en ce lieu comme un trophée. Mon désir d'y retourner n'avait pas de rapport direct avec la disparition de Cathy. Si les octopodes avaient tué Richard ou découvert son corps ailleurs dans Rama, peut-être l'avait-il mis en montre à côté du cadavre du savant japonais. Dire que je n'étais pas impatiente de voir ce qu'un taxidermiste extraterrestre avait pu faire de la dépouille de mon mari serait un euphémisme, mais je voulais savoir ce qu'il était devenu. Surtout après avoir fait un pareil rêve. J'inspirais à plein poumon et franchis le seuil du musée. La salle s'illumina aussitôt et je poussai un soupir de soulagement en constatant que le docteur Takagishi n'était plus exposé dans l'entrée. En fait, tout avait bien changé. Les biotes qui occupaient autrefois la majeure partie de l'espace avaient disparu. Les thèmes de la nouvelle exposition étaient à présent les aviens et les humains. 3 spécimens des premiers étaient suspendus au plafond à proximité de la porte, ailes déployées. Je reconnus l'être de velours gris aux 2 colliers rouges cerises que nous avions vu peu avant son décès. Il y avait des objets fascinants et même des photographies, mais mon regard fut attiré par ce qui entourait le docteur Takagishi. Je fus soulagé de constater que la dépouille de mon mari ne se trouvait pas dans cette salle et étonné de voir le canot pneumatique que nous avions utilisé pour traverser la mer cylindrique ainsi qu'un assortiment d'articles divers récupérés après nos pique-niques et autres sorties dans New York. Le clou de l'exposition était toutefois une série de photos encadrées. J'approchais pour mieux voir et sursautais de surprise. Il y avait de nombreux clichés de l'intérieur de notre refuge. On nous voyait prendre nos repas, dormir et même aller aux toilettes. J'étais atterré. Nous avions été soumis à une surveillance constante et un frisson glacé me parcourut. Une paroi était réservée à une série de vues qui m'emplirent de gêne. Sur Terre, on les eut qualifiées de pornographiques. Je faisais l'amour avec Richard dans diverses positions et il y avait aussi un cliché de moi avec Michael, fort heureusement dans une semi-pénombre. Au-dessous, s'alignaient des instantanés de la venue au monde des enfants. La naissance de Patrick me confirma que nous étions toujours épiés et la superposition de scènes de sexe et d'accouchement m'indiqua que les octopodes, ou les raméens, avaient déterminé quel était notre mode de reproduction. Je fixais ces photos depuis près d'un quart d'heure quand un bruissement me parvint de la porte. Terrifié, je restai figé sur place, et regardait follement de toutes parts, sans trouver d'autre issue.
« Maman !»
cria Cathy. Elle se précipita vers moi en courant et sauta dans mes bras après avoir manqué de peu renverser le docteur Takagishi au passage.
« Oh, maman, je savais que tu viendrais me chercher !»
Je fermai les yeux et la serrai contre moi en pleurant. Je la berçai et la réconfortai en lui disant
« Tout va bien, ma chérie. Tout va bien. »
Finalement, j'essuyai mes larmes et relevai la tête pour voir sur le seuil un octopode qui semblait s'intéresser à nos retrouvailles. Je fus paralysé par des émotions aussi différentes que la joie et la terreur. Cathy dut s'en rendre compte, car elle regarda par-dessus mon épaule.
« N'aie pas peur, maman. Il ne te fera pas de mal. Il se contente de nous observer. Il s'est souvent approché de moi. »
L'adrénaline saturait mon organisme. Le monstre barrait toujours l'unique issue. Sa grosse tête sombre, presque sphérique, surmontait un corps supporté par 8 tentacules striés de bandes noires et or. Au centre de sa face, 2 entailles symétriques parallèles s'ouvraient de chaque côté d'un axe vertical invisible. Je remarquai entre ces cavités une étonnante structure lenticulaire carrée de 10 cm de côté, une masse gélatineuse à facettes emplie d'un fluide noir et blanc. Un œil grouillant d'activité. Il y avait d'autres organes entre les 2 fentes, mais je n'eus pas le loisir de les étudier. La chose venait vers nous, et je cédais à la panique, malgré les déclarations rassurantes de ma fille. Les bruissements étaient dus à ces tentacules qui glissaient sur le sol, et la plainte suraiguë émanait d'un petit orifice de la partie inférieure droite de sa tête. La panique bloquait mes pensées, et mon instinct de survie prit la relève. Le problème, c'était que nous n'avions nulle part où aller. L'être ne s'arrêta qu'à 5 mètres de nous. J'avais fait reculer Cathy contre le mur pour me placer entre elle et le monstre. Je levai la main et assistai à un regain d'activité dans son œil mystérieux. Puis j'eus une idée. Je plongeai la main dans ma combinaison et pris mon ordinateur de poche. Les doigts tremblants, l'octopode avait levé 2 tentacules devant son organe de vision, et je me demande à présent s'il ne s'était pas imaginé que je dégainais une arme. Je fis afficher l'image de Richard sur l'écran que je présentais à la créature. Elle baissa ses tentacules et fixa le moniteur pendant près d'une minute. Puis, à ma grande surprise, une onde de couleur pourpre sortit d'une des fentes verticales de sa tête et fit le tour complet de son crâne. Quelques secondes plus tard, elle était suivie par un arc-en-ciel de rouge, de bleu et de vert. Ces bandes de largeurs différentes apparaissaient dans une cavité, parcouraient la circonférence de la boîte crânienne, puis disparaissaient du côté opposé. L'octopode utilisa un de ses appendices pour désigner le moniteur. L'onde pourpre réapparut et nous assistâmes peu après à un nouvel arc-en-ciel.
« Il nous parle, maman !»
dit doucement Cathy.
« Tu as sans doute raison, ma chérie. L'ennui, c'est que je ne connais pas son langage. »
Après avoir attendu une éternité, l'être recula vers le seuil en utilisant un tentacule pour nous faire signe de le suivre. Il avait renoncé à utiliser son langage coloré pour s'adresser à nous. Nous le suivîmes en nous tenant par la main. Cathy regarda de toutes parts et remarqua les photos.
« Tu as vu, maman? Ils ont des images de nous. »
Je lui intimai de se taire et de ne pas quitter des yeux notre guide. Il reculait dans le tunnel en direction du puits hérissé de pointes qui donnait accès à la station de métro. C'était le moment ou jamais. Je pris ma fille dans mes bras, lui murmurai de s'agripper fermement et m'enfuis à toutes jambes jusqu'au sommet de la rampe d'accès. Michael a été fou de joie de revoir Cathy et gêné d'apprendre que des caméras étaient cachées dans tout l'appartement. Mon soulagement était si grand que je n'ai pas vraiment réprimandé ma fille pour son imprudence. Elle a raconté à Simone qu'elle avait vécu une aventure formidable et que l'octopode était très gentil. Tel est le monde de l'enfance. 4 février 2209. Mon bonheur est incommensurable. Nous avons retrouvé Richard. En vie, bien que dans un coma profond et en proie à une forte fièvre. Cathy et Simone l'ont découvert ce matin, gisant sur le sol à moins de 50 mètres de l'entrée de notre refuge. Nous avions prévu d'aller jouer au ballon sur la place et nous allions sortir quand Michael m'a rappelé. J'ai dit aux filles de m'attendre à l'extérieur et de ne pas s'éloigner. Quand elles ont crié, quelques minutes plus tard, j'ai gravi les marches 4 à 4 en redoutant le pire et vu aussitôt le corps dans le lointain. J'ai cru tout d'abord que Richard était mort. En tant que médecin, je me suis empressé de contrôler les signes vitaux. Les filles s'accrochaient à moi pendant cet examen, surtout Cathy, qui répétait sans cesse
« Est-ce que papa est vivant? Oh maman, sauve-le !»
J'ai diagnostiqué un coma et Michael et Simone m'ont aidé à le porter jusqu'à sa chambre. J'ai injecté, depuis, des sondes biométriques dans son système circulatoire et je surveille toutes les données qu'elles me transmettent. Après l'avoir déshabillé, je l'ai examiné de la tête aux pieds. Les égratignures et les ecchymoses sont nombreuses, mais sa numération globulaire est proche de la normale. J'ai eu une surprise en fouillant ses effets. Il y avait dans une poche de sa veste le prince Hal et Falstaff, les deux robots shakespeariens disparus 9 ans plus tôt dans l'étrange univers qui s'ouvre sous l'antre des octopodes. Sans doute a-t-il su convaincre ces monstres de lui rendre ses compagnons de jeu. Il y a désormais 7 heures que je le veille. Les autres membres de la famille m'ont tenu compagnie, mais je suis seul avec lui depuis 1 heure. J'ai contemplé son visage et caressé son cou, ses épaules et son dos. De nombreux souvenirs m'ont fait verser des larmes. Je n'aurais jamais cru le revoir et le toucher un jour. Oh, Richard, sois le bienvenu dans ta demeure. Sois le bienvenu auprès de ta femme et de tes enfants.